Radio 404, présenté par l'AMUA.
Notre société numérique, ses passions, ses nouvelles tendances et ses petites névroses, le tout analysé à travers 5 sujets de 5 minutes par 5 spécialistes, c'est Studio 404. Bienvenue. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur Studio 404. En compagnie de mes 4 compères, 4 chroniqueurs, nous allons discuter ensemble de divers sujets qui nous touchent de près ou de loin, des sujets très généralistes ou très pointus, vous allez voir, mais toujours traités avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de culture, beaucoup aussi de mauvaise foi, je l'espère. Et pour cela, je serai armé de 4 bras droits, en commençant par le premier ou la première, c'est Mélissa Bounois. Bonsoir Mélissa, comment ça va ?
Salut, ça va très bien.
Alors Mélissa, journaliste en ligne, est-ce qu'on peut dire ça ?
Journaliste web, c'est plus joli quand même.
Journaliste web, un métier nouveau. Est-ce que c'est un métier qui change beaucoup par rapport aux journalistes pas web ?
Bah, on met des liens dans nos papiers et puis on essaye de mettre des vidéos YouTube, mais ça fait un peu peur aux gens qui n'ont pas trop l'habitude de vidéos dans des articles. Donc on essaye de faire ça bien, en général ça marche. Il y a des gens qui ne cliquent pas sur les liens, ils disent « Ouh là là, où je vais ?»
Alors journaliste énigmatique qui perd ses lecteurs, c'est un nouveau métier. Ouais. À côté de toi Mélissa, nous avons Daz. Comment ça va Daz ?
Ça va très bien, merci.
Alors Daz, tu fais un métier très sérieux dans la vie avec une cantoche et un CDI.
Ouais, et des CE process. Et des process et du visual management, tout à fait.
Mais au-delà de ça, tu es passionné de nouvelles technologies, on adore cette expression, depuis très longtemps. Et tu as été spécialiste Apple, donc tu as été au cœur des plus grosses guerres de geeks, finalement.
Ouais, et puis l'imparfait n'est pas... La guerre est toujours en cours, je n'apprends rien.
Donc voilà, Daz qui nous accompagnera avec ses jolis mots, ses barbarismes et sa mauvaise foi légendaire.
Mais tout à fait.
En face de toi, Daz, une personne ou alors une créature, une création de l'Internet, c'est Fibre Tigre.
Bonjour, c'est Fibre Tigre.
Alors Fibre Tigre a été générée dans les méandres de certains réseaux de jeux et de certains réseaux sociaux, et donc tu sévis notamment sur Twitter.
Oui, grande passion Twitter, il se passe plein de choses et on va dire c'est le cœur de la vie numérique, donc j'espère qu'on en parlera beaucoup ici.
C'est on en parlera beaucoup. Et donc à côté de toi, last but not least, notre spécialiste de la veille des réseaux et du LOL, c'est Sylvain Palais.
Salut, ça va l'âme ?
Ouais, alors Sylvain, il déteste qu'on dise qu'il fait partie de la génération Y. Donc Sylvain, qu'est-ce que la génération
Y ?
Encore,
tu le dis encore, je vais quitter ce studio.
Non, donc Sylvain qui distribue du lien malin, souvent sur les réseaux, et qui fait une très très bonne veille, et qui sinon, la journée, doit se déguiser pour travailler en agence de com.
De publicité, exactement. Voilà. Mais bon, c'est un peu lié à Internet, donc tout va bien.
Donc Sylvain, Fibre Tigre, Daz et Mélissa, nous sommes tous ensemble donc, pour traiter 2-5 sujets en 5 minutes. Et entre chaque sujet, je vous poserai des petites questions que tout le monde ou peu de personnes se posent. C'est la FAQ.
FAQ, vos interrogations.
Première question d'un auditeur. Cher Studio 404, je compte draguer sur plusieurs sites de rencontres, mais je vais utiliser la même identité numérique. Est-ce honnête ou est-ce crevard ? De ma part. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé des sites de rencontres et comment approchent-ils la chose ?
Jamais.
Jamais, Daz ?
Jamais, je suis un traditionnel. Donc, je le trouve très honnête de rester lui-même sur tous les sites de rencontres.
D'accord, Daz est pour. Sylvain ?
Moi, je trouve qu'il est malin, finalement, parce que chacun sa stratégie. Tu peux porter des masques, tu peux être honnête. Bah, il a choisi d'être honnête, c'est sa stratégie à lui.
Fibre, toi qui es multiple.
Les sites de rencontres ont intérêt à ce qu'on ne trouve pas des gens, ou en tout cas, on ne trouve pas à long terme des gens. Donc, à ce qu'on se sépare. Donc, s'il veut trouver quelqu'un sur Internet, il y a plein de gens, il pourrait le trouver ailleurs que sur un site de rencontre.
J'ai rien compris, mais je regarde. Mélissa qui regarde Fibre avec des yeux merlant frits.
Honnête, je dirais. Parce que de toute façon, on va forcément googler le mec dans le cas du nana pour voir s'il existe ailleurs. Et ça me déplairait. Enfin, je serais pas contre le fait qu'il soit ailleurs.
D'accord, très bien. Bah écoute, mon ami, sois honnête. Et on va parler de solitude tout de suite.
Studio 404.
On sent ces derniers temps que la solitude revient quasiment à la mode dans une société où justement tout le monde est connecté, surconnecté et connecté en permanence. Est-ce que d'une certaine manière il faut couper les fils, disparaître, rythmer sa sociabilité ou alors carrément devenir un ermite ? Je te sens, Fibre, que tu es chaud par contre là-dessus.
Non, un petit chiffre qui date de juin dernier, un sondage Mediaprisme, La Croix, 20% des 18-35 ans souffrent ou souffriraient de la solitude.
C'est-à-dire que ça existe
ou
toujours
ça.
On leur a demandé, vous sentez-vous seul? Bon, c'est des ados, hein. Enfin, je sais pas, non, 18-35 ans, non, mais bon, il faut voir que la solitude, ça génère de l'économie, c'est très intéressant.
Oui.
Parce que ben, quand vous êtes seul, ben, justement, vous allez payer pour être sur un site de rencontre.
Ouais.
Et d'ailleurs, même le site de rencontre, il a intérêt à ce que vous restiez pas longtemps avec quelqu'un, quoi.
Donc c'est une sorte d'effet marketing poussé par des boîtes en disant, hey, la solitude, c'est génial, ou. Ou est-ce qu'il y a un ras-le-bol des gens
tout, bah, en tout cas, bon, y a une stratégie économique derrière. Mais de toute façon, la solitude, ça sert à plein de choses. Grâce à la solitude, on peut travailler c'est tranquille.
Non, mais il y a la solitude choisie et la solitude subie, quand même.
Voilà. Alors là, on parlerait plutôt de la solitude choisie. Des gens qui décident un peu de couper les fils, de dire, tiens, qu'est-ce qui se passe si je ne réponds pas à une friend request sur Facebook, si je ne réponds pas forcément au téléphone, si je ne tweete pas pendant 4 jours, suis-je socialement mort? Et est-ce que, du coup, aussi, est-ce que c'est cool?
Alors, c'est assez intéressant, effectivement, parce que moi, personnellement, quand je vois des gens qui sont dans ma timeline, parce qu'elle n'est pas très fournie...
Alors, la timeline, qu'est-ce
oui,
que c'est?
C'est le...
Ton flux, hein.
Voilà, c'est le flux d'informations Twitter. Donc moi, je ne suis pas énormément de monde sur Twitter. Du coup, effectivement, je me rends compte assez rapidement quand une personne sort. Et c'est vrai qu'au bout de 2 jours, quand on est habitué à voir toujours la même personne revenir régulièrement, on peut se dire, tiens, peut-être qu'elle a un accident, qu'elle est morte. Ou...
C'est marrant, j'aurais dit exactement l'inverse, moi.
Ouais.
À partir du moment où tu n'es plus actif sur Internet, tu ne tweets plus, tu ne mets plus à jour tes statuts Facebook, tu n'existes plus pour personne.
Oui,
mais les gens t'ont oublié.
Ouais. Ça dépend en fait, de la richesse de ta timeline.
Les gens ne fêtent pas ton anniversaire.
Ça, c'est drame, ça, c'est triste.
Non, mais pour exister sur Internet, il faut produire du contenu, de toute façon.
Mais surtout, est-ce qu'il faut produire ou répondre présent en continu, d'une certaine manière?
Ah oui, il faut toujours activer le lien social.
Quel est le délai de solitude? À quel moment dit-on que quelqu'un a un peu coupé les fils?
3 jours.
Même pas, attends.
24
heures. Tu rigoles, 24 heures.
Non, 3 jours.
Alors, oui. Mélissa, toi, qui est très active sur les réseaux et très populaire, et qui mêle aussi le personnel et le professionnel, les deux semaines, est-ce que tu dois maintenir une présence, une interaction et une sociabilité en continu?
J'essaye de le faire, mais surtout par intérêt, parce que je vois, enfin, il y a des jours où j'ai pas envie d'y aller, donc j'y vais pas. Le week-end, il m'arrive de jamais tweeter pendant 2 jours. Et les gens s'en rendent absolument pas compte, quoi. Quand je reviens, entre guillemets.
moi, je le vois.
Les gens reviennent et se disent, mais je suis parti 3 jours, vous m'avez pas vu. Et il y a plein de mecs comme ça qui se disent, j'arrête pendant une semaine. Et en fait, quand ils reviennent, bah, personne n'a vu qu'ils étaient partis.
Ouais, c'est l'effet diva. Je pars, je ne reviens plus, c'est pour attirer l'attention. Et puis bon, s'en fout un peu.
Ils reviennent en disant, ma mère, personne n'a vu. Disons, comment vous auriez pu voir que j'étais plus là? Mes tweets trop bien, vous auriez pu les lire. Bah non, vous les avez pas.
Tu te rends compte qu'Internet continue de tourner sans toi, surtout.
Ouais.
Les mecs n'ont pas.
Oui, mais enfin, je pense que ça dépend quand même du profil des gens qui te suivent, entre guillemets. Sous-entendu, si tu suis 1500 personnes, effectivement, tu te rendras pas compte qu'une d'entre elles manque à l'appel. Mais si t'en suis que 10.
Non, mais j'aurais tendance à dire que sur Twitter, notamment, le fait de pas tweeter, c'est mieux que de tweeter des choses pas intéressantes.
C'est vrai.
D'accord. Et sur le rapport à soi en individuel, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous faites partie de ces gens qui, quand vous partez en vacances, vous décidez de tout couper et il y a une sorte de peur panique qui s'empare un peu de vous en disant « Oh là là, je vais être en retard sur justement ce qui se passe, je vais me couper un peu de ce flux qui est devenu une sorte de colonne vertébrale de notre vie.
Ouais, »
Est-ce qu'il y a une sorte de petite peur panique au moment où vous décidez de couper? Et déjà, est-ce que vous coupez en partant?
Non, moi je coupe pas, je paniquerai trop, mais pas pour... ouais, non, mais sérieux. Hein. Mais pas pour l'actu, pour les news ou quoi que ce soit, juste parce que, je sais pas, quand t'as l'habitude de parler à des gens, d'échanger... Du jour au lendemain, si tu stoppes tout.
Le problème, en fait, là-dessus, c'est que. Alors, déjà, j'avais une question justement pour ceux qui ne coupent pas en vacances. C'est quoi votre forfait? Parce que je vois des gens qui prennent des photos sur Instagram toutes les 3 secondes alors qu'ils sont à l'étranger. Et je me dis, mais c'est pas possible.
Ces gens-là, ils courent d'oasis en oasis, ce qu'on appelle un hotspot Wi-Fi.
Le Wi-Fi gratuit en Wi-Fi gratuit.
En vacances, tu sais, ça tue un peu
le
mythe.
Tout le budget qu'on met dans le forfait, c'est le budget qu'on n'a pas pour partir à l'étranger.
Ok, très bien. C'était la solitude, donc pas partagée par tous, en tout cas.
FAQ, vos interrogations.
Question d'un auditeur. Je me suis mis à racheter de la musique. Suis-je devenu riche, responsable, ou est-ce que c'est le message d'Adopi qui rentre enfin dans ma tête? Fibre, dis-moi, avec toi qui es fan de New Age.
Si aujourd'hui, à l'époque de Spotify, de Deezer, on peut avoir n'importe quelle musique sous la main très rapidement, la personne achète vraiment du disque, il rentre dans cette espèce de snobisme, fétichisme du matériel. Donc c'est un petit peu atypique aujourd'hui, c'est pas le futur, mais c'est très intéressant.
Das, toi tu achètes de la musique, et tu fétichiste ou es-tu pragmatique?
Je suis pragmatique, j'ai perdu beaucoup trop de temps en fait à essayer de télécharger des trucs alors que ça coûtait rien, et je suis juste remis mon taux horaire à moi au niveau des recherches, et au final c'est mieux de l'acheter 5$ que de dépenser 12 heures à chercher le truc gratuit, quoi.
Mélissa.
Je pense que le discours des artistes sur la reconnaissance de leur travail a joué. Et du coup, les gens se disent, j'ai envie de reconnaître cet artiste et donc de lui donner de l'argent. Donc, ils payent pour la musique qu'ils achètent.
D'accord. Donc là, on est plus dans le soutien. Sylvain, toi ?
Moi, je pense pas qu'il ait peur d'Adopi parce que c'est pas par la répression qu'on arrivera à changer le comportement, mais en proposant de nouveaux modèles. Et Spotify, par exemple, a très bien compris ça en proposant l'écoute illimitée pour 10 euros par mois. Moi, c'est ce que je fais parce que c'est pratique.
Voilà, là, on a des chroniqueurs qui sont complètement dans le droit chemin. C'est bien, merci.
Studio 404.
Alors, le deuxième sujet, dont l'énoncé me fait plaisir, puisque je pense qu'il a été pensé par Fibre Tigre lui-même. Attention, accrochez-vous. L'irréfutabilité en temps réel d'une information lâchée sur le net, qu'est-ce que c'est ?
Bon, moi j'y tiens vachement parce que...
Très clairement déjà expliqué alors, à nos auditeurs.
En fait, c'est facile. Déjà, il y a le conte populaire, voilà. L'enfant qui arrive dans le village, il crie au loup, il n'y a pas le loup. Et finalement, on ne le croit pas. Et finalement, un jour, il y a un loup qui arrive, il le mange. Et bien, quand la télévision est arrivée, on s'est dit... ben zut, tout le monde peut, enfin les journalistes peuvent crier au loup et du coup on peut pas leur dire ben non c'est pas vrai en temps réel, on peut être victime d'injustice médiatique et aujourd'hui avec Twitter, avec les réseaux sociaux, n'importe qui, votre petit neveu, il peut crier au loup,
rumeur,
il peut dire ben je sais pas, Pedro Almodovar est mort comme c'est arrivé récemment et Pedro Almodovar deux jours après alors tout le monde pleure sa mort doit arriver et dire ben non mais je suis pas mort.
Ouais.
Et donc en fait on est dans une situation qui est difficilement contrôlable. Il y a en France un organisme officiel de l'État qui est le Centre de contrôle des rumeurs. Non, ça s'appelle, attendez.
Le Centre de contrôle des rumeurs.
Ça s'appelle le Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique, voilà, qui existe depuis 1998, qui vérifie qu'on ne fait pas n'importe quoi. Enfin, je ne sais pas s'il vérifie ouais, tant que ça.
Alors, qui se passe après n'importe quoi.
Voilà. Et donc, en fait, ça pose tout simplement la question de la vérité à l'ère numérique. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux ? On ne peut pas le savoir.
Alors, surtout, c'est vrai que c'est un axe où les médias, on va dire, traditionnels attaquent beaucoup Internet en disant Internet, c'est le Far West, c'est tout n'importe quoi, n'importe qui peut écrire n'importe quoi. Nous, on est un peu les garants, les gardiens du temple d'une certaine vérité. Est-ce que toi, Mélissa, par exemple, qui travaille, qui est journaliste web, donc qui travaille dans un média, on va dire, officiel, sur un média qui est nouveau, est-ce que t'es parfois prise entre le marteau et l'enclume pour gérer tout ça ?
Bah, j'ai peut-être raconté l'histoire de la mort de Bernard Montiel.
Ah, c'est
de la fausse mort de Bernard Montiel.
C'est bête qu'on ait que 5 minutes parce qu'on aurait bien fait une minute de silence.
Un jour, Lapin Blanc, je crois, le compte Twitter Lapin Blanc poste Bernard Montiel est mort.
Donc à la base, juste comme ça,
juste
de manière
ça.
Gratuite.
RIP Bernard Montiel, exactement.
Voilà. comme une blague qui est reprise, et les médias commencent à se dire hey, « Eh, mais ça doit être une vraie info ». Et donc j'étais à 20minutes.fr à l'époque, et il se trouve que donc, quelqu'un avait le numéro de Bernard Montiel, et on s'est donc retrouvé à appeler Bernard Montiel pour savoir s'il était mort. « Oui, bonjour Monsieur Montiel, êtes-vous mort ?»« Non, je ne suis pas mort », il nous a bien répondu. Donc on a fait un papier en disant « Voilà, c'est monté le fameux sujet type sur les sites d'info, le web s'enflamme autour de la mort de Bernard Montiel, mais finalement il n'était pas mort ». Mais il y a vraiment des rédactions qui y ont cru, au point de vérifier l'info.
Mais est-ce qu'on revient quasiment au stéréotype ? Effectivement, est-ce qu'à un moment, il y a une voix populaire qui dit que sur Internet, il y a tout n'importe quoi, et c'est peut-être vrai ?
Bah, moi, je pense que le fake sur Internet, c'est une institution. Il y a toujours des mecs qui ont porté des masques, qui ont menti, etc. Après, je suis désolé, Mélissa, mais c'est aux journalistes de faire leur boulot aussi. Quoi.
Ouais. Il faut
vérifier les sources. Alors, là, ils l'ont fait, oui.
Mais oui, mais avant, t'avais pas un sujet qui débarquait sur Internet avec une blague de Lapin Blanc et il y avait trois journalistes qui se disaient il y a un sujet, il faut appeler quelqu'un.
Bah justement, moi, j'aimerais juste mettre en lumière un petit paradoxe. C'est que donc les journalistes, ils sont dans, dans ce petit buffering, cette zone tampon, dans lequel soit ils disent pas l'info et bah, ils risquent de se faire damer le pion, soit ils disent l'info et ils disent on n'est pas encore de source sûre.
Alors, c'est vrai.
Et en fait, justement, qui offre le tampon, c'est vérifié, c'est quelques organismes, genre Reuters, AFP, donc des agences de presse. Donc paradoxalement, alors que tout le monde aujourd'hui peut créer l'info, et ben l'info, elle vient que de petits goulots d'étranglement.
Oui, mais de plus en plus, comme disait Mélissa, de plus en plus, et Sylvain aussi, les journalistes ou les médias commencent à être un petit peu en panique parce qu'ils sont régulièrement tensés pour leur lenteur, leur manque de réactivité par rapport aux réseaux sociaux. Et on dit souvent que le scoop est sorti sur tel réseau ou tel site. Et est-ce qu'il n'y a pas une sorte de peur-panique aussi qui fait que pour être assez rapide, on va mettre la vérité comme un critère pas secondaire, mais plus comme le critère sacré et premier, d'une certaine manière.
Oui, bah c'est clair, c'est le rush pour l'info, ça se voit de toute façon avec les chaînes d'info continue, hein, qui sont capables d'envoyer un camion et un journaliste terrain pour une info qui est même pas sûre, ils ont absolument aucun contenu, et ils se contentent de relayer le truc en temps réel, et puis d'attendre que ça se passe, donc effectivement... Bon. Je partage pas ça, je comprends pas justement que le journalisme en soit réduit à ça.
Il y a une éducation au fake à faire, enfin au faux à faire sur Internet, ça c'est clair. Et c'est peut-être aux journalistes justement de le faire.
Très bien, restez vigilants.
FAQ, vos interrogations.
Question d'un auditeur qui va faire plaisir à Sylvain, je pense. Je cherche Studio 404, je lis de plus en plus le terme LULZ ou LULZ. Alors, L-U-L-Z. Pourquoi ? Est-ce plus cool que le LOL ?
Alors, c'est LULZ, tu as raison, tu te corriges toi-même. Le LULZ, en fait, c'est le pendant maléfique du LOL. C'est-à-dire que le LOL, ça va être l'humour un petit peu bon enfant. Oui. Le LULZ, ça va être l'humour pour se moquer des autres. C'est-à-dire qu'on rigole ensemble et on se fout vraiment de la gueule de quelqu'un, quoi. Genre, on lui envoie des pizzas chez lui et on regarde ses réactions après sur Twitter, quoi. Et il sait pas que c'est nous, on se marre, quoi. C'est méchant, le LULZ.
Mélissa, tu as déjà reçu des pizzas méchamment chez toi ?
Non, jamais. Mais j'ai vu un film de Sophie, enfin, avec Sophie Marceau qui s'appelait LOL et je me dis vraiment que c'est devenu mainstream au point qu'il soit adapté aux États-Unis et que Demi Moore joue le rôle de Sophie Marceau.
Oh là, on a, alors là, il faut du LULZ.
Il en faut plus. MDR,
il va en falloir beaucoup.
Il faut exporter la culture française.
Ce sera MDR, Das, ouais. tu es pour ce que Sylvain définit comme un côté un peu sale gamin de l'humour ?
Je pense pas que ce soit même le LOL qui soit le sale gamin. Je pense que le LOL est devenu complètement premier degré et qu'il y a que ta grand-mère qui l'utilise en fait maintenant. Et Sophie Marceau. Et Demi Moore du coup.
Et c'est ma grand-mère, c'est Sophie Marceau. Bon, on a. Ouais. Et toi, Fibre, est-ce que tu es pour ou contre ce pendant maléfique du LOL ?
Il permet d'identifier qui on est, puisque étant donné que Sophie Marceau utilise LOL, il fallait que la sous-culture internet ait son petit acronyme rigolo.
D'accord, donc on est pour le LULZ et on est pas contre Sophie Marceau.
Studio 404.
En parlant de LULZ et en parlant de se moquer des gens, si on parlait des people là. Nos amis les people. Alors les people en général, hein, on va parler des petites stars de télé-réalité comme des vrais mégastars, comme des politiques, qui, comme tout le monde, ont investi avec plus ou moins de bonheur les réseaux sociaux et Internet, ont commencé à s'y exprimer et gérer leur représentation et leurs propos, avec des dérapages parfois savoureux, parfois vraiment limite, parfois très mauvais. Je voulais avoir votre avis sur le fait qu'il y a un message maintenant et un comportement non filtré des gens, alors qu'on a vécu pendant des années dans une sorte de mythologie de la star qui était surentourée, qui avait 3 attachés de presse, 2 managers, des community managers, qui ne parlaient pas finalement, et qui aujourd'hui s'expriment, et peut être ivre, peut être de mauvaise foi, peut être raciste. Déjà, avant d'attaquer certains cas, est-ce que vous trouvez ça bien ou pas bien ?
Bien.
Moi, je trouve ça étrange.
Pourquoi étrange ?
Je trouve ça étrange qu'à un moment donné, une star dise « Bon, bah, je vais aller sur Twitter, je vais m'occuper de mon compte toute seule », et que ses agents et ses attachés de presse, justement, qui sont autour de cette star, ne lui disent pas « Fais gaffe quand même, enfin, c'est pas ton métier de parler
aux gens. » Ouais, mais c'est le pro de la pub qui parle, là. Hein.
Moi, je pense que, justement, il y a un problème avec toute cette partie de management des stars qui n'était juste pas à jour, en fait, et qui ne connaissaient pas ces réseaux-là, qui ne connaissaient pas cette tendance, et qui sont prendre de court par les artistes qui managent, quoi.
Cette sorte d'innocence et de fraîcheur et de maladresse, ça vous réjouit ou pas ? Toi, alors, Sylvain, tu trouvais ça étrange ?
C'est étrange.
Fibre, tu es très content ? Mélissa.
Ça permet quand même de constater que certains artistes sont finalement complètement comme nous,
mais
voire moins bien.
J'irai encore plus loin, c'est que si tu connais pas l'œuvre d'un artiste en particulier, tu peux le découvrir. Enfin, si tu connais pas Matt Pokora, tu peux découvrir que sa maman lui fait des pâtes. Tu peux découvrir des tas de choses très sympas sur cette période et dire, mais il est vraiment sympa. Et un jour, tu découvres qu'il fait de la musique, c'est super.
Et qu'il est homosexuel. Mais ça, c'est une autre question.
Est-ce que tu penses qu'un Matt Pokora ne feint pas justement cette proximité ? Et que finalement, ouais, c'est un agent...
Matt, non.
Pas Matt. Alors,
pas Matt, je vais filmer.
Il y a le cas très heureux de M. Pokora, de Matt Pokora. Il y a aussi des people qui ont énormément dérapé. On a eu le rappeur Rof récemment. On a eu Rihanna qui postait tout et n'importe quoi. Nous avons eu donc Véronique Jeunesse et son fameux « J'ai peur de l'islam ». Alors, je comprends quand tu dis que c'est génial, tu passes dans leurs propos, mais tu dis que c'est génial de les voir enfin de manière un peu brute.
Alors, c'est pour la partie justement, tous ces artistes, là tu parlais de Rof et toutes les stars du hip-hop français qui sont complètement à la ramasse, et c'est juste jouissif de lire leurs trucs.
Donc là, c'est plus du LULZ, on est d'accord.
Mais c'est du 100% LULZ, là, pour le coup. Enfin, moi, Rof, qui propose de faire l'amour à peu près toutes les mamans de tous les gens qui lisent son compte Twitter, c'est génial. À tel point, d'ailleurs, que les gens de chez Hostile Records ont repris son compte avec une personne qui est chargée maintenant de faire la com, parce que c'était n'importe quoi.
D'ailleurs, Sylvain, on voit de plus en plus aussi que effectivement des stars qui dérapent se font quasiment comme des enfants qui se font confisquer leurs jouets.
C'est ça, ils se font confisquer. Leur
on a vu Ashton Kutcher qui avait dérapé aussi en défendant un entraîneur de football américain pédophile, sans faire exprès,
ouais.
En étant un peu naïf et déconnecté. Et il a annoncé qu'il arrêtait de tweeter et qu'il remettait ça à une agence carrément.
Là récemment, c'est Woodkid aussi, l'artiste français, qui s'est fait connaître justement grâce à cette proximité avec les gens sur les réseaux, qui a décidé de tout confier au label, de se retirer du truc parce que soit ça lui prenait trop de temps, soit il dérapait justement et voilà. Il y a une tendance un peu inverse.
Une autre idée peut-être, c'est avec Twitter, vous reprenez le contrôle sur votre communication. C'est-à-dire que vous n'avez pas des managers qui disent « Ah ben non, Mathieu Kassovitz, il ne faut pas dire que vous enculez le cinéma français, quoi. » Et non, il dit ce qu'il veut, quoi, et voilà. Et même chose, il y a aussi le contrôle. C'est-à-dire que ce n'est pas un journaliste de première qui va sur le tournage de Batman et qui prend des photos. C'est Christopher Nolan qui prend la photo qu'il veut, juste avec le cadre qu'il veut, parce qu'il sait ce qu'il fait et on va voir juste Catwoman et on en aura envie comme ça, quoi.
D'ailleurs, Mélissa, pour les journalistes, comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce qu'on n'a pas l'impression que finalement, quasiment les infos, les propos les plus vrais sortent des réseaux sociaux, des comptes des réseaux sociaux des stars, plutôt que des interviews qui restent encore très parfois formatées, contrôlées, etc. Est-ce qu'on ne trouve pas des sources d'informations plus intéressantes?
Bah si, en plus, il y a le fait déjà que ce soit pratiquement en temps réel, donc il y a des comptes rendus de tournage, des points de vue sur l'actualité qui sont donnés comme ça en deux secondes, qu'il ne faut pas appeler la personne, qu'elle ait une interview. Il y a plein maintenant de papiers où c'est juste des revues de tweets, ça c'est un peu dommage que ça devienne ça, mais c'est vrai que c'est réjouissant de voir ces gens-là parler... naturellement, à part Rihanna qui pleure chez Oprah Winfrey. Enfin, il y a très peu de gens qui sont honnêtes sur un plateau télé et il y a toujours 8 minutes d'interview télé, par exemple. Et là, on va les voir discuter et faire publier 10 tweets à la suite en disant non, mais j'en ai marre de ça ou j'en ai marre de ça.
Ouais. Les Français sont fous. Donc, Rihanna, par exemple.
Donc, ouais, on est plutôt pour. On vous publiera sur notre super site. studio404.skyblog.com des comptes de people à suivre.
Un minimo, juste les en général, les
gens. On dépasse les 5 minutes, la fibre. Mais, attention.
C'est 30 secondes. Les gens qui disent. Oui, sur Twitter, il n'y a que des gens qui prennent des photos de nourriture. En général, ce sont des gens qui suivent que des stars.
Ah, oh, donc c'est une règle. Ok, on vérifiera.
FAQ, vos interrogations.
Quatrième question de notre FAQ, qui est une question conso et qui touche vraiment tout le monde aujourd'hui. C'est un problème important. Dois-je acheter l'iPhone 5 ou est-il devenu vraiment trop mainstream et commun pour le geekster que je suis? Geekster étant, je crois, une contraction des termes geek et hipster. Alors, on va s'adresser naturellement à toi, Das, qui est un spécialiste de la question S-POM.
Eh bien, ma foi, oui, non, mais évidemment que l'iPhone 5 est un beau produit, évidemment que, enfin, si tout le monde l'a, c'est que forcément c'est bien.
Alors, est-ce cool d'acheter un iPhone 5 ou est-ce que c'est devenu
oui, c'est ringard comme d'avoir un frigo chez soi, mais si le frigo marche bien, il n'y a pas de raison de s'en priver juste pour dire qu'on est à contre-courant. Donc oui, achète l'iPhone 5, achète-le à ta grand-mère, achète-le à tout le monde.
Donc Daz, prosélytisme pro-Apple-esque.
Mais c'est même pas ça, je suis prosélytisme pro-produit, en fait, c'est tout, c'est... Et le produit marche bien, il est bien pensé, ben pourquoi se priver? On va pas se forcer à aller sur Android comme Sylvain le fait.
Alors Sylvain qui a reçu l'attaque et qui l'a encaissé.
Oui, j'encaisse, je suis un petit peu dans les cordes, je suis un petit peu sonné, je sais pas comment je vais réagir.
Toi tu es pro Android et tu n'es pas pro iPhone?
Je suis pro Android et je suis pas pro iPhone. En fait, je suis pas anti Apple, mais je suis anti fan hardcore d'Apple.
Là, je suis d'accord.
Le délire m'énerve un peu. Non, mais pour notre auditeur, s'il veut garder le 50% de hipster de son geekster, là,
ouais.
Il faut qu'il s'éloigne absolument du mainstream. Donc, ni iPhone, ni Android, je lui conseille le 3310.
Le Nokia 3310.
Le bon vieux téléphone.
So vintage. Toi, Mélissa, est-ce que tu possèdes un iPhone? Est-ce que tu vas passer à l'iPhone 5 ou est-ce que pour toi, ça te dépasse?
Je possède un iPhone et je pense qu'il faut garder son iPhone existant et que je n'achèterai pas l'iPhone 5 à 679€.
679€ quand même.
Contre 649$. Belle conversion.
C'est quand même renseigné sur les prix US, hein, mine de rien, pour quelqu'un qui ne va pas l'acheter. Et toi, Fibre?
Bah, s'il n'est pas cher, ouais, je le prendrais. Pour frimer. J'avoue, je suis le seul à avouer que c'est moi qui vais frimer, quoi.
Donc on peut encore frimer avec un iPhone 5.
Complètement, même, ça va. C'est le seul outil aujourd'hui. Parce qu'avoir une montre, c'est ringard, c'est un truc de vieux. Je vais vous regarder votre l'heure sur le smartphone.
Ouais. Ou alors on est hipster et on revient à la montre. En tout cas, bon, écoutez, on 50-50 là-dessus sur la question. Valeur sûre, mais pas la folie.
Studio 404.
Bon, on arrête le sujet techno, mais on passe à un autre sujet techno qui est très important et qui touche notre nation, la France. La France, souvent, je pense qu'on est tous d'accord, est un petit peu raillée pour son côté un petit peu passéiste, voilà, voire un petit peu musée côté technologie, surtout les technologies numériques. On parle souvent du Minitel, de Bulle, du Bebop, de toutes ces choses-là. Mais nous sommes certains que la France a à sa manière, et parfois de manière un peu discrète, contribué à l'histoire et au progrès technologique qu'on utilise même aujourd'hui encore. Et je sais que certains d'entre vous ont sorti leur fiche Wikipédia ou leur longue feuille avec toutes les notes. Est-ce que la France a vraiment participé de sa manière, à sa manière, à la révolution numérique qu'on vit aujourd'hui ? Fibre, dis-moi.
Bah, tout simplement, le web, c'était au CERN. Et le CERN, c'est à moitié français. Voilà. Alors, c'est un Britannique.
Les Anglais paradaient leurs Britanniques à inventer le web.
Ils ont tout inventé. On leur a laissé ça. C'était les JO. C'était festif. Hein, ils ont aussi pris beaucoup de médailles. Mais bon,
le CERN. Tu veux dire qu'ils ont volé les JO déjà, la candidature.
Ils ont volé quelques médailles aussi. Hein. Bon, il y a la moitié du CERN, c'est français. C'était chez nous. Voilà. Il y a eu pas mal d'aspects techniques. Le TCP/IP, c'était le projet Cyclades. Donc, c'était aussi.
Le TCP/IP qui est le protocole qu'on utilise aujourd'hui tous pour aller sur Internet.
Alors, attention quand même. Je pense que le web tel qu'il a été inventé au CERN au départ, donc une communauté de scientifiques, de chercheurs, etc. entre eux, est-ce qu'ils avaient pensé qu'à terme on s'enverrait des petits chatons qui font des papouilles et des trucs comme ça? Je suis pas sûr.
Bah justement, c'est avec le Minitel qu'on s'envoyait pas des chatons, mais des petits messages avec « je t'enverrais bien un chaton ».
Le Minitel. Le Minitel. Je crois qu'il y en a deux qui sont un peu jeunes pour avoir utilisé le Minitel, je sais pas. Mais
Moi j'en avais un.
Ah bon, bah, tout le monde alors. Est-ce que le Minitel, c'est une réussite? Ou est-ce que, parce qu'on se moque souvent du Minitel, mais est-ce que c'était une réussite technologique française finalement?
Ça a généré beaucoup d'argent, donc réussite.
Ouais, alors en dehors de ça, je suis pas sûr que les gens, à part pour chercher un numéro ou des contacts bucogénitaux sur.
Ah non, 36, et les résultats du bac, ouais,
36, alors ça, pour moi, 36-7 Ravel, c'était pas une réussite.
Avec Ravel aussi, c'est vrai. Mais enfin, il faut pas oublier quand même que la connexion au Minitel, c'était cher.
Ouais.
Que beaucoup de foyers ont vu des factures de téléphone astronomiques parce que les enfants avaient passé un peu de temps, même sur des trucs pas forcément à caractère sexuel, hein, mais. Je sais pas, pour moi c'est vraiment c'était les prémices, effectivement, ça préfigurait un peu ce que serait le web plus tard, mais encore une fois, la vision française du truc fait que on a créé le Minitel à l'instant T, on l'a pas fait évoluer après, c'est-à-dire que t'avais toujours les pages qui se rafraîchissaient au bout d'une demi-heure, qu'il fallait toujours appuyer sur suite, on n'a pas changé la résolution de l'écran du Minitel, donc il fallait aimer les gros carrés en noir et blanc, enfin... Il n'y a pas eu d'évolution sur le média. On l'a créé, et puis il est mort comme on l'a créé, c'est-à-dire sans aucun changement.
Est-ce qu'il y a eu d'autres innovations technologiques pour lesquelles la France n'est pas célèbre, justement, mais des innovations importantes?
Le MP3 est français.
Ah, le MP3, ça compte.
Ça a été créé au Centre commun d'études et de télévision et de télécommunications. C'est un peu long, hein. Ça se passe à Rennes, et ils mangeaient des crêpes, voilà.
C'est la Silicon Valley de l'Ouest. Donc le MP3 est inventé en France. D'autres inventions ?
Le baladeur multimédia est inventé en France.
Alors, le baladeur multimédia, c'est
pas... Je précise, donc, c'est le baladeur qui permet de voir de la musique et des vidéos. Okay. Et c'est Arcos qui a fait ça.
La société française.
Ah, voilà.
La fête de l'Internet. Et on est en 1997.
La ville Internet.
Oui, la ville Internet.
Alors, c'est quoi la ville Internet, Mélissa ?
C'est une ville qui est dotée de plateformes de nouvelles technologies. On va dire ça comme
des,
ça.
Des fameuses NTIC. Ouais.
Voilà. Et qui donc sont, comme les villes fleuries, elles ont des petits hâtes pour dire si elles sont dotées de nombreuses technologies ou non.
Mais la France, quand même, n'a pas vraiment une image de pays qui a adopté cette culture numérique par rapport à, je sais pas, la Scandinavie, l'Asie, même les États-Unis un petit peu. On a l'impression que la France a un peu suivi et qu'on a beaucoup d'innovateurs...
C'est parce qu'en fait, la France essaie de capitaliser sur ce qu'elle peut proposer culturellement. Et tu parlais justement des pays de Scandinavie. Bon, ben voilà, ils n'ont rien. Donc forcément, ils se sont jetés dans le numérique, alors que la France, elle a la gastronomie, elle a les lieux touristiques, etc. Et...
On leur laisse Internet, quoi.
Voilà.
Toi, grand seigneur, tu laisses Internet.
On a essayé, de faire une Silicon Valley à la française, etc.
Il y a plusieurs essais.
Sophie Antipolis.
Et puis, il y a Silicon Sentier dans Paris aussi.
Silicon Sentier.
Ça n'a pas marché, en fait, tout ça ou...
J'ai l'impression que l'esprit d'entrepreneuriat à l'américaine, on peut pas le trouver en France.
À part Eric Lemaire.
Mais qui est justement parti aux États-Unis
pour échouer comme un Français.
Pour échouer comme un Français.
Il est quand même connu aux États-Unis. Il a fait une conférence à laquelle tous les Américains viennent à Paris.
Ouais, c'est vrai.
Enfin, surtout parce que c'est à Paris, je pense. Aussi.
Ouais, je pense aussi qu'ils viennent faire leur course en même temps. Donc bon, on va finir sur le fait que Loïc Lemaire est le symbole de la technologie française. Voilà.
FAQ. Vos interrogations.
Dernière question de cette première FAQ de Studio 404. Une question de jeune parent inquiet. Ma future fille de 12 ans veut son compte Facebook. Suis-je comme mes parents qui interdisaient la télé à la maison, faisant de moi un paria de la société, de la cour de récré, si je lui dis non? Alors, on va parler tout de suite au jeune papa qui est autour de cette table. Hein, qui a forcément la fille la plus éveillée que les autres.
Elle est complètement éveillée, c'est bien en avance sur son âge.
Voilà, comme d'habitude. Alors Daz, est-ce que toi, pour toi, les enfants sur Facebook ou sur les réseaux ou sur Internet, c'est quelque chose qui est naturel, qui sera naturel à leur âge ou qui doit être contrôlé?
Oui, bah, de toute façon, le minimum légal sur Facebook, c'est 13 ans. Mm-hmm. Donc, de toute façon, sa fille va devoir attendre un petit peu. Et puis oui, pour moi, il n'y a pas de souci tant que c'est vraiment contrôlé et que les parents savent ce qui se passe sur le compte Facebook de leur enfant. Quoi.
Alors, est-ce que les parents savent ou est-ce que vraiment les enfants sont contrôlés ou entourés? Toi, Mélissa, si tu avais une petite fille de 12 ans, ou si tu étais une petite fille de 12 ans, est-ce que tu te laisserais t'aventurer telle Dora l'exploratrice sur des réseaux ouverts un peu à tous? C'est un peu la cour des miracles aussi, d'une certaine manière.
Bah, je pense que j'irais, mais j'aimerais bien qu'on m'apprenne en fait à me dire que peut-être que dans 30 ans, si Facebook existe encore, on pourrait retrouver la trace d'un statut où j'ai dit j'ai cette maladie incurable et où l'assureur qui voudrait m'assurer va se dire non, je peux pas vous assurer à ce prix-là parce que vous avez une maladie incurable.
Oh là 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 là, tout de suite. De toute façon, si t'as une maladie incurable, dans 30 ans, tu seras pas là. Voilà, la question est réglée.
Allez, salut.
Bonne chance dans la vie, Mélissa.
Ça, c'est du lol, je crois.
Sylvain, toi, justement, qui connais un peu les facettes et les méandres un peu plus sombres de l'Internet, est-ce que tu penses que c'est bien pour les enfants de s'y aventurer librement?
Bah, en fait, c'est comme partout. Hein. C'est comme les pédophiles qui se baladent avec des camions de glace dans la rue. Il faut expliquer aux enfants qu'il ne faut pas monter dans le camion des inconnus. Il faut expliquer qu'on n'accepte pas toutes les friend requests sur Facebook. Et voilà, quoi. Il faut leur expliquer les dangers. Et puis, ils sont malins, ils comprendront.
Si, bon, tu es pour des cours d'éducation civique numérique?
Je pense qu'il faut faire confiance à tout le monde. Voilà. Qu'elle aille sur Facebook, elle aura la culture de l'écrit, ça va lui faire beaucoup de bien. Il ne faut pas sous-estimer aussi la sécurité qui existe sur Internet en France, parce qu'aujourd'hui, quand vous faites n'importe quoi, bah, vous êtes tracé, on retrouve votre trace. Donc, il faut avoir un petit peu confiance, oui, et c'est quelque chose de merveilleux.
Si on retrouve la trace, si la trace aide à retrouver ton cadavre ou celui de ta fille dans 5
oui, mois,
des
gens qui sont morts à cause de Facebook, le ratio mort sur utilisateur est quand même hyper faible par rapport à d'autres médias.
On restera sur cette statistique rassurante. Vous pouvez aller sur Facebook, c'est plus rassurant et sécuritaire que de faire du jogging dans le bois de Boulogne avec un taxi derrière vous.
Studio 404.
Elles sont aussi sur Internet, elles sont aussi très branchées réseau. Elles sont parfois jeunes, Mélissa va nous en parler. Qui sont ces blogueuses mode?
Les blogueuses mode ont réussi un tour de force, c'est de tuer, enfin pas non pas de tuer, mais inverser le modèle économique de la fashionosphère, la si on peut dire ça comme ouais. ça. En postant des photos donc d'elles en portant des fringues accessibles à tout le monde au départ, et donc ça a plu à de nombreuses filles parce qu'elles se sont dit bah j'ai pas un sac, je peux pas me payer un sac à 500 €, donc je vais plutôt suivre les conseils mode d'une telle ou une telle. Et celles qui ont donc le plus réussi, donc on peut nommer le blog de Betty, Garance Doré, Punky Bee, Didi, voilà, il y en a plein qui ont réussi. Maintenant, réussissent à vivre que de ça.
Alors, comment ça veut dire quoi déjà réussir? C'est quel est le stade de la réussite? Et puis, quel est le moment où elles vivent de ça?
Disons qu'elles ont certaines ont abandonné leur job à temps plein qu'elles avaient avant.
Donc leur job, c'est de se faire prendre en photo par leurs petits copains, c'est ça?
Voilà.
Toute la journée avec des nouveaux looks.
Betty, par exemple, donc, poste à peu près tous les jours des photos d'elle en mettant juste en dessous de la photo les marques. De ce qu'elle porte, avec souvent les liens vers les sites où on peut les acheter.
Il y a une petite histoire. En gamme aussi, quand même. Parce que
c'est ça, parce que Betty a commencé avec des marques assez bas de gamme et maintenant elle est invitée dans le monde entier à des conférences, Hermès et d'autres marques que je ne citerai pas. Voilà, juste pour montrer toutes ces marques, montrer les sacs, les robes, les.
C'est un petit
colliers,
peu scénarisé aussi, hein. J'ai vu, il y a une petite histoire.
Mais alors, est-ce que ça te réjouit que des jeunes filles qui ont un certain goût pour le style et soient devenues aussi puissantes que des rédactrices mode, ou est-ce que ça te désespère de voir que ces jeunes filles, finalement, retournent dans le modèle du magazine mode qui est de copiner avec des marques et de montrer des choses toujours plus exclusives?
Bah, au départ, c'était pas mal parce que ça a quand même permis un autre ton, une autre vision de la mode. Mm-hmm. Mais c'est vrai que en fait, finalement, toutes ces nanas, quand elles arrivent, disons, au premier rang des fashion shows, elles se mettent voilà, à se montrer à ces événements-là comme les journalistes de Elle ou Vogue auraient fait, mm-hmm. et à prendre des photos qui sont finalement assez similaire, et c'est dommage d'en arriver là. Après, il reste toujours un équilibre de blogueuses mode qui sont pas dans ces sphères-là, qui se disent non, je veux pas montrer ça, et qui vont faire autre chose.
Alors, ces blogueuses mode, elles représentent aussi une sorte de race de gens qui génèrent beaucoup de débats, qui sont un peu les VIP, les ambassadeurs, les influents.
Les sponsorisés.
Alors qu'on accuse justement d'être sponsorisés, d'être affiliés, de vendre leur contenu, de faire copain-copain avec certaines marques sans le dire, d'échanger, de ne plus rien faire gratuitement. Est-ce que c'est une réalité ? Est-ce que c'est l'avenir de tous les gens qui ont du succès ? C'est de, à la fin de se vendre, plus ou moins
hein. Pour moi, c'est le problème de toute façon du blog en général. C'est-à-dire qu'un blogueur n'est pas journaliste. Donc la déontologie, c'est quelque chose que le blogueur ne connaît pas forcément. Et comme il cherche son intérêt plutôt que l'intérêt commun, l'intérêt général, effectivement, assez souvent, ils en viennent à tirer la couverture à eux et à profiter de choses sans forcément le dire à leur lecteur.
Il ne faut pas généraliser. Il y a des blogs qui existent parce que justement, ils sont indépendants et je ne suis plus dans la rédaction de machin sous l'autorité de machin et je peux dire ce que je veux.
Alors, c'est vrai, mais là, pour la partie qui nous intéresse, à savoir les blogueuses mode ou même les blogueurs high-tech, etc., on se rend quand même compte que les billets sponso, comme on appelle ça maintenant...
Qu'est-ce que c'est qu'un billet sponso ?
C'est l'équivalent de l'infomercial qu'on trouve dans les magazines, c'est-à-dire que c'est un article qui est rédigé par... qui est normalement rédigé par le blogueur, mais qui doit respecter un certain nombre de critères. Il se trouve que maintenant, les marques proposent carrément l'article déjà tout fait au blogueur, qui n'a juste à le publier. Et forcément, ça, sous couvert de l'indépendance d'esprit, et puis de dire, voilà, moi j'aime bien tel produit ou telle marque de vêtements, etc., parce que elle et moi, on a un vécu commun, on a quelque chose à partager. En fait, non, c'est juste, voilà, telle marque m'a payé 2000 euros pour que je dise que son produit est bien, donc je le dis.
Alors, c'est ça qui est triste. Un billet sponsor, ça peut aller jusqu'à 2000 euros ?
Je sais pas.
Oui, ça peut monter très très
haut. Je pense que ça va plus haut. Hein, mais...
Juste pour la société Glam Media, qui
ouais. C'est une régie pub. Hein.
Voilà, qui fédère certains contenus de blog mode. Déjà, à la base, c'est 50 millions d'euros de capital.
Ouais. Donc ça rigole pas. Il y a une économie derrière. Toi, Sylvain, qui travaille justement pour le mal, qui travaille pour les marques.
tout ça, c'est la faute de la publicité.
comment est-ce que vous les gérez ? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les blogueurs et les blogueuses n'ont créé aucune révolution dans le contenu, mais sont quasiment des sortes de micro-médias comme d'autres, finalement ?
Oui, on les considère plutôt comme des ambassadeurs de la marque, finalement. C'est des gens qui vont avoir une audience tellement grosse que c'est presque celle d'un média, finalement. Mm-hmm. Donc on les considère comme des médias. Mais je veux dire, c'est peut-être la faute de la publicité, mais pour l'instant, depuis l'invention de la presse, on n'a pas trouvé de meilleur modèle économique.
Il faudra parler un jour des blogueurs mode.
Justement, le mec de Garance Dorée, Scott Schumann, fait 12 millions de pages vues par mois.
Non, je parlais des blogueurs mode sur Skyblog.
C'est
de Sylvain Palais.
Eux ne gagneront jamais d'argent, mais on espère qu'ils gagneront jamais d'argent. En tout cas, c'est sur Skyblog, donc on revient à la source, que se clôt ce cinquième mini-débat du Studio 404. J'étais ravi de vous accueillir, Fibre, Sylvain, Mélissa, Daz. On se retrouve le mois prochain pour 5 autres débats en 5 minutes entre 5 personnes consentantes.
Studio 404.